Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, troisième épisode de notre série sur l'amour avec un texte du grand philosophe allemand qui a beaucoup inspiré Benoît XVI, j'ai nommé Joseph Pieper, auteur d'un très beau petit traité intitulé « De l'amour ». Que veut dire « aimer » ? En italien, « je t'aime » se dit « ti voglio bene », »,« je te veux du bien ». Dès lors, le véritable amour apparaît comme un amour actif, qui fait le bien de celui qu'on aime. Cependant, on sait les dangers des amis qui nous veulent du bien, et nous avons connu les totalitarismes qui, au nom du bien de l'humanité, ont détruit les personnes réelles. Alors, aimer, est-ce d'abord faire du bien, ou quelque chose de plus fondamental ? Écoutons donc cet extrait du « De l'amour » de Joseph Pieper, lu par Clotilde Césari.
L'amour est toujours synonyme d'approbation. Il faut prendre cela au pied de la lettre. Aimer quelqu'un ou quelque chose signifie affirmer que cette personne ou cette chose est bonne. Se tourner vers elle en disant « c'est bien que cela existe, il est bon que tu sois dans le monde ». Une telle explicitation nécessite toutefois, pour éviter d'éventuels malentendus, une explication immédiate et presque une rectification. Avant tout, il convient d'entendre qu'il ne s'agit pas ici simplement de constater et d'affirmer par une phrase déclarative. L'approbation dont il est question relève d'une manifestation de la volonté. Elle s'oppose à la neutralité distante, purement théorique. Elle signifie être d'accord, adhérer, approuver, applaudir, attester, faire l'éloge, chanter et louer. Si grande que soit la différence d'intensité entre le simple fait d'être d'accord et l'affirmation enthousiaste et louangeuse, les verbes de cette liste, que l'on pourrait facilement rallonger, ont quelque chose en commun. Tous, sans exception, sont des expressions de la volonté. Tous possèdent ce sens « je veux que tu existes ». Aimer est donc une manière de vouloir. Et si nous butons ici sur un problème, c'est en raison de notre conception activiste et étroite de la volonté, telle que la présentent de nombreuses doctrines philosophiques et psychologiques. Vouloir, selon ces doctrines, consiste à produire quelque chose qui n'était pas encore là. Or, il existe aussi une forme de vouloir qui ne vise pas à faire quelque chose qui n'a pas encore été fait, ni à changer l'état actuel des choses. Il existe, outre le vouloir faire, le consentement purement affirmatif à ce qui est déjà là. Consentir et confirmer quelque chose de déjà accompli, que l'on n'a pas fait soi-même, mais qui nous est pour ainsi dire donné. Voilà ce que veut dire aimer. Dans la grande tradition de la pensée européenne, on a même toujours soutenu que l'amour est, d'une manière générale, l'acte originel de la volonté. Tout vouloir faire ne s'exerce que sur le fond d'un vouloir ce qui est déjà là. Toute décision de volonté a son origine et son principe dans cet acte fondamental de consentement. Et cela aussi, bien dans le sens de la chronologie que de la hiérarchie. Non seulement l'amour est par nature le premier acte de la volonté, non seulement tout exercice de la volonté dérive de l'amour, mais aussi l'amour, en tant que principe, c'est-à-dire en tant que source toujours influente, enflamme toutes nos décisions concrètes et les maintient vivantes.
C'est bien que cela existe, il est bon que tu sois dans le monde. Fabrice Adjadj, quel est le contexte de ce texte ?
Alors, ce texte de Joseph Pieper, un très grand philosophe allemand qui a effectivement marqué Benoît XVI, on pourrait dire que c'est un peu le Jacques Maritain de l'Allemagne, avec quelques différences, c'est que Joseph Pieper est un grand lecteur de Platon, il est peut-être moins aristotélicien que Jacques Maritain, et puis c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse aux textes contemporains, notamment ceux de Martin Heidegger, et donc il resitue toujours sa pensée à l'intérieur de débats extrêmement liés à son époque. Alors, Pieper a écrit trois traités justement sur les trois vertus théologales, l'un sur la foi, l'autre sur l'espérance, et là, c'est le dernier, alors sur la charité, mais en fait, d'abord, sur l'amour en général. Et la grande affirmation de Pieper, on pourrait dire que c'est d'une certaine façon la thèse principale, c'est que l'amour est d'abord une approbation. Avant d'agir, semble-t-il, il s'agit de dire « il est bon que tu existes ». On l'a entendu dans ce texte. Et donc, bien sûr, « il est bon que tu existes », ça fait écho à quelque chose. Vous voyez, Dieu crée et après cela, il voit que cela est bon. Donc, d'une certaine façon, l'amour est un écho de l'acte créateur. On ne peut pas créer l'être aimé, et il a été créé. Voilà. Et même, il faut renoncer à vouloir le créer ou le recréer. Nous avons cette capacité de faire écho à la bonté du fait que la personne est née, la personne est là, devant nous. Et alors, on voit que tout amour, c'est ça ce qui est sous-entendu, tout amour, même chez le non-croyant, en fait, mais implicitement, répercute, réverbère l'amour de Dieu pour sa créature.
Ce texte ne peut que nous faire penser au livre de Job, où les trois amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar, cherchent à faire du bien à Job, et pourtant ils seront réduits au silence, et seul Dieu qui accueille la plainte de Job est vraiment ajusté et aime et est vraiment dans une relation d'amour avec Job. Donc l'amour serait plus du côté de l'accueil plutôt que du faire.
C'est-à-dire que, bien sûr, que aimer, c'est vouloir le bien de la personne. Mais il y a d'abord ce point fondamental que c'est, et Thomas d'Aquin aussi insiste là-dessus, hein, vouloir que la personne soit. pas lui vouloir qu'elle soit ceci ou cela que nous envisageons comme son bien, mais plutôt qu'elle soit elle-même. Souvent on pense que l'amour serait du côté du don de soi. Mais vous voyez, dans le don de soi, le problème c'est encore soi-même. On est encore dans un rapport avec... Non, c'est d'abord un rapport à l'autre. Et ce rapport à l'autre, on pourrait penser que c'est lui faire du bien. Mais d'abord, c'est vouloir que l'autre soit cet autre. Et c'est donc plutôt ménager une place pour que l'autre se déploie en tant que tel, pour lui-même. Et c'est pas... toutes les rhétoriques du don de soi sont quand même à corriger, et celles du bien doivent d'abord renvoyer effectivement à vouloir que l'autre soit l'autre. Et donc, d'abord à voir où il en est, à voir où il est. Or, c'est effectivement ce qui se passe avec les amis de Job. Donc là, on commence par un amour qui n'est pas l'amour-passion, et on est tout à fait en droit de commencer avec cette question de l'amour d'amitié. Effectivement, dans ce texte, on nous précise que ce sont des amis. Donc, trois personnes qui aiment Job. Il n'y a pas de doute sur leur caractère. Et d'ailleurs, même, ils vont commencer, semble-t-il, à se mettre avec lui, puisqu'ils vont passer plusieurs jours, enfin, du temps, en silence, à jeûner près de lui, sans rien dire. Puis, ils prennent la parole. Et au moment où ils prennent la parole, ils ont tellement envie que Job sorte de sa plainte, de son gémissement, qu'ils vont essayer de lui donner des solutions théoriques. Ce qui t'arrive, au fond, c'est normal. Tu n'as pas à crier. Et vous voyez, ça, c'est une situation très intéressante, parce qu'on veut le bien de celui qu'on aime. Mais ça, oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, même, la compassion peut nous entraîner à la destruction, parce qu'on veut tellement le bien de l'autre qu'on va essayer de trouver des solutions immédiates, rapides, expéditives. Vous voyez, on pourrait dire, les amis des personnes mourantes deviennent, on en a parlé dans une émission précédente, des euthanasistes, au nom du bien, bien sûr. Je te veux du bien et je vais t'enlever toutes tes souffrances. Or, il y a un enjeu vraiment dans l'amour, c'est rester avec l'autre en tant qu'autre et parfois, quand on éprouve sa propre impuissance devant le mal qui lui arrive, le tenir à la main et gémir avec lui. Il y a cette parole de saint Paul qui est très belle, hein, et qui montre bien qu'avant même de vouloir transformer la situation des gens, il s'agit d'être avec eux. Saint Paul dit « Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurer avec ceux qui pleurent. Et il ne nous dit pas faites en sorte que ceux qui pleurent se réjouissent tout de suite et faites en sorte que ceux qui sont dans la joie se souviennent que quand même ce monde est une vallée de larmes. Vous voyez, ce n'est pas du tout ça.
Que signifie pour Piper que l'amour est l'acte originel de la volonté ?
Alors là, on arrive à un point fondamental, on pourrait dire, de la philosophie des émotions, des affections, on dit dans le langage ancien, la philosophie des passions, hein, des passions de l'âme, c'est que l'amour est le premier mouvement de toute forme d'affectivité, que ce soit l'affectivité sensible, que ce soit l'affectivité rationnelle, c'est-à-dire la volonté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les passions sont dépendantes de l'amour. Nous rencontrons un bien, nous l'aimons. Mais à partir de cet amour vont venir toutes les autres affections. Parce que si nous aimons quelque chose, nous allons nous mettre à haïr tout ce qui est contraire à cette chose. Et Thomas d'Aquin, par exemple, insiste sur le fait que l'amour est le fondement de la haine. Et vous voyez, dès qu'on aime quelqu'un, on va se mettre à haïr tout ce qui est contraire à cette personne. Bah, la maladie qui pourrait l'atteindre, le péché qui pourrait la ruiner intérieurement. Être dans l'amour, même pour le saint, c'est avoir une certaine haine aussi. On trouve ça par exemple dans les psaumes. Hein, tes ennemis, je les hais d'une haine parfaite. Qu'est-ce que c'est que cette haine parfaite? Ce n'est pas la haine de l'homme comme tel, de l'ennemi en tant qu'homme, mais de l'ennemi en tant qu'il est dans le péché, en tant qu'il se détruit. Donc aimer quelqu'un, c'est haïr le péché qui le ruine. S'aimer soi-même, c'est haïr le péché en soi. Aimer Dieu, c'est haïr tout ce qui va aller contre la volonté de Dieu. Il en va de même à partir de là, avec tout, ben on va fuir ce qui pourrait faire du mal à ce qu'on aime, on va le repousser par la colère, par exemple, si la chose est déjà présente. On va avoir de l'audace pour essayer d'acquérir un bien difficile à atteindre, etc. Donc, toutes les passions dépendent de l'amour comme acte premier. Et vous voyez, celui qui n'aime rien ne peut rien haïr, ne peut pas se mettre en colère, n'aura peur de rien. Pour qui va-t-il craindre? Plus on aime, plus on peut craindre si ce qu'on aime est vulnérable. Et alors, forcément, l'amour va rendre vulnérable davantage. Et c'est normal qu'il y ait une crainte qui naît à partir de l'amour. On avait déjà évoqué, me semble-t-il, Superman qui tombe amoureux de Lois Lane. Les balles rebondissent sur le torse de Superman, mais elles peuvent atteindre Lois Lane. Donc, par son amour, il multiplie sa vulnérabilité. Et dès lors, il y a des craintes, il y a des peurs qui vont naître. Donc l'amour est à la racine de toutes les passions. Et si vous ne voulez rien aimer, si vous n'aimez plus rien, vous n'avez plus aucune autre affection, aucune autre passion. Mais si vous aimez, à ce moment-là, vous allez avoir toutes les affections. Et c'est très intéressant parce que certaines philosophies vont dire, pour trouver la paix intérieure, il ne faut plus rien aimer, plus rien désirer. Bah oui, là, c'est sûr que ça marche. Voilà. Donc enlevez l'amour et vous n'avez plus rien. Mais mettez l'amour, disait Bossuet, et vous avez toutes les passions qui viennent avec. Alors, c'est d'abord ça, c'est-à-dire l'acte originel de toute forme d'affectivité, l'acte originel de la volonté, et là, Piper va encore un peu plus loin, il dit, si nous faisons des choses, qu'est-ce qui nous pousse à faire des choses? Qu'est-ce qui est le moteur? Quel est le premier mouvement qui est le moteur de tous les autres mouvements qui vont nous pousser à agir? Eh bien, c'est l'amour. Et donc, si l'amour faiblit, eh bien, il n'y a plus, vous voyez, le carburant de l'action. Et tout ce que nous faisons, c'est en fonction de l'amour. Mais alors, vous voyez, reste un problème, il faut que l'amour soit ajusté à la réalité. Il faut que l'amour soit bon. Dans son débat, par exemple, avec les stoïciens, qui avait tendance à condamner les passions et à dire qu'il faut sortir des passions, et notamment des passions excessives, eh bien, saint Augustin disait, le problème, ce n'est pas amour ou pas d'amour, c'est le fait que l'amour soit ordonné. Si l'amour est bon, si on aime ce qu'il est bon d'aimer, eh bien alors toutes les autres passions vont être là et vont être ordonnées à cet amour. Si on aime en revanche ce qui est mauvais, bien sûr, tout va être désordonné. Donc c'est l'amour ordonné qui va ordonner tout le reste de la vie affective. Et vous voyez que Par exemple, la vie affective du chrétien, si on la voit à travers les psaumes notamment, eh bien c'est pas une, ça n'a rien à voir avec le stoïcisme. Il ne s'agit pas d'être dans une égalité d'humeur, d'être dans l'absence de troubles. Toutes les passions sont présentes dans les psaumes. La révolte, la colère, la tristesse, la joie, la louange, l'inquiétude, le désir, tout est là. Mais tout ça est ressaisi justement dans la vraie recherche de Dieu, dans la vraie recherche du bien et de la justice. Quand c'est une révolte contre Dieu, ben c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi la justice ne se fait pas. Vous voyez, donc il y a toujours cette idée que toutes les émotions, à partir de l'amour, deviennent bonnes si l'amour est bon.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, aimer, est-ce d'abord faire du bien à celui qu'on aime ? Fabrice Hadjadj, si l'amour, c'est consentir à celui qu'on aime, consentir à celui qui est là, la haine, son opposé, serait une forme de désapprobation de l'être de l'autre. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait comprendre qu'il y a une indifférence possible, ou alors toute indifférence serait-elle aussi une désapprobation, donc une forme de haine ?
Dans ce que vous dites, qui est très intéressant, c'est que si le véritable amour commence par approuver l'être de l'autre, donc qui reste autre, ça veut dire qu'il y a des choses qui se présentent comme de l'amour et qui relèvent de la haine. Et c'est vrai. Si, par exemple, je vois l'autre comme un simple matériau que je dois transformer selon mes plans, à ce moment-là, je peux croire que je l'aime puisque je veux son bien. Mais derrière cela, il y aura de la haine. Vous voyez, c'est ce qui arrive à des parents qui veulent valoriser leur enfant d'après leur échelle de valeur et qui ne voient pas que cet enfant, c'est un autre qui doit mener sa vie, qui va entrer dans un temps qui ne sera plus le leur. Alors bien sûr, il y a des biens qui valent pour tous, mais le bien qui vaut pour tous, c'est de vivre dans la vérité et la justice et la bonté. Bon, mais après, si on se dit, mon fils, tu dois nécessairement faire une grande école, tu dois devenir ingénieur parce que c'est la voie royale, et que ce fils peut-être a des dispositions à faire un travail plus manuel, à devenir, je ne sais pas moi, chaudronnier par exemple, on peut imaginer. Bon. Mais on va dire, non, c'est pas, il faut que tu fasses. Et, bon. Et là, on dira toujours, c'est pour ton bien. C'est pour ton... Mais en fait, derrière, on n'a pas d'abord dit oui au fait que l'autre était un autre, qu'il était donné. Et ça, bien sûr que c'est ça qui est très intéressant. Je reviens à votre question sur l'indifférence. Ça veut dire que dans cet amour, il n'y a pas d'indifférence. Voilà. Mais en même temps, il y a aussi une forme, je veux dire, un certain détachement. Parce qu'on laisse l'autre être. Il y a un laisser-être l'autre. Vous voyez, donc on pourrait dire qu'il y a une forme d'indifférence positive au sens où Saint Ignace de Loyola parle de sainte indifférence. Vous voyez, c'est-à-dire, je ne veux pas m'accaparer le réel, je vais d'abord le laisser être. Et c'est à partir de cela que je vais pouvoir faire le bien. Vous voyez, au fond, quand il dit que le premier mouvement de la volonté, c'est de dire oui à l'être tel qu'il est donné, ça veut dire que je ne vais rien construire avant d'avoir accueilli l'ordre de la réalité, l'ordre du donné. Je vais accueillir le réel, non pas comme une série de data que je vais manipuler à ma guise, hein, une base de données, mais comme un don. Le donné devient un don. Et donc, je vais accueillir le réel comme un donum, comme un don. Il est bon que tu existes. Il est bon que tu sois là. Ah, mais ça veut dire que, quand je dis « il est bon », et ce n'est pas moi qui l'ai créé, je dis oui avant de faire, avant d'être dans la volonté de faire, eh bien ça veut dire que ma volonté va s'insérer dans un ordre du monde, dans une providence d'une certaine façon, et donc reconnaître que l'ordre du monde est le lieu où peut se déployer la bonté. Alors que si on cherche à reconstruire complètement le monde à partir de nos plans, comme l'ont fait les totalitarismes, on entre dans quelque chose qui est une destruction et qui, sous les apparences de l'amour, en fait, cache une haine du réel, une haine de l'autre et
peut-être au fond une haine de soi.
Piper dit que aimer, c'est confirmer et consentir à ce qu'on n'a pas fait. Et cependant, plus loin, il va dire que aimer, c'est parachever l'œuvre créatrice de Dieu. En aimant quelqu'un, on l'amène à sa perfection, à la perfection voulue par Dieu. Est-ce que dans cette mesure-là, aimer et donc accueillir l'autre, consentir à l'autre, ce n'est pas quand même un faire ?
Bien sûr. Ici, il ne s'agit pas de dire que l'amour est absolument passif, qu'il serait en position de simple spectateur, de simple contemplateur du réel. Toute contemplation, de toute façon, dans cet ordre-là, vient nous mobiliser d'une certaine façon. Donc forcément, implique un passage à l'action. Mais simplement, il s'agit de voir ce dont l'autre a besoin, ce qu'il est, là où il en est. Et donc, c'est surtout le fait que l'amour, avant d'être donné, vous voyez, il faut donner, ce qui est le cœur de l'amour, c'est d'abord la réceptivité. Et au fond, on pourrait dire que Piper insiste sur le fait que le premier acte de l'amour, c'est de dire « il est bon que tu existes », ça veut dire que c'est une contemplation d'abord de l'être de l'autre, ça veut dire que le premier acte de l'amour est lié profondément à l'intelligence. C'est-à-dire, objectivement, quelle est la chose dont a besoin cet autre ? Quel est-il ? Qui est-il ? Parce que sinon, je vais projeter sur lui n'importe quel plan de réforme de ses mœurs, de ses comportements, sans savoir ce qu'il est. Et c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire est-ce que mon action part d'abord de ce qu'est l'autre ? Et vous voyez, il y a une telle diversité. Vous aimez une personne, elle a besoin de ceci, vous en aimez une autre, elle a besoin d'autre chose. Et vous n'aimez pas de la même façon le petit enfant trisomique, celui qui a d'excellents résultats scolaires, vous n'aimez pas de la même façon une adolescente, une femme plus âgée. Vous allez toujours chercher le bien en fonction de ce qu'elle est et de où elle en est. Donc l'insistance ici, c'est toujours cette objectivité de l'amour.
Fabrice Hadjadj, nous arrivons au terme de notre émission. Voudriez-vous rajouter quelque chose pour nos auditeurs ?
J'aimerais terminer avec un très beau texte de Jean Giono qui s'intitule « Mort d'un personnage ». Dans ce texte, Angelo, le héros, parle d'une grande dame qu'il a connue enfant, qu'il fascinait, pour qui il avait une très grande admiration, Pauline de Théus. Et voilà que cette femme devient vieille, et très vieille, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se nourrir d'elle-même, elle bave, elle s'oublie. Et alors il doit s'en occuper, la nettoyer, lui nettoyer la bouche, changer ses vêtements, etc. Et Giono, à un moment donné, par la voix du narrateur de cet Angelo, dit « À ce moment-là, ce que j'ai découvert, c'est l'amour objectif ». Et c'est pas, y a un amour où on est pris comme ça dans l'effervescence de nos sentiments, de nos passions, un amour qui est marqué par ce que Stendhal appelle la cristallisation, c'est-à-dire que dans l'être aimé, on voit encore autre chose que l'être aimé, celui qui va venir compenser, dépasser toutes nos frustrations, on va projeter sur lui le bonheur, notre bonheur. On va essayer même parfois de se jeter éperdument vers lui comme pour oublier le monde et sa détresse. Puis tout d'un coup, ça nous rattrape et toute cette cristallisation s'effondre. Et au moment où tout ça s'effondre, eh bien, on voit l'être nu et on est déçu et on s'en va. Et dans l'histoire de cet Angelo avec Pauline de Théus, que nous raconte Jean Giono, il voit cette femme qu'il a admirée qui est devenue finalement une sorte de squelette complètement dépendant, incapable d'avoir le train de vie qu'elle avait, ayant perdu tout rayonnement, devenue terne. Et il va s'occuper d'elle jusqu'au bout. Et voyez, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, tu peux plus rien, tu es faible, etc. Mais au fond, il est bon que tu existes. C'est cela, vous voyez. derrière l'amour et cet amour de quelqu'un qui fait qu'on va aller jusqu'à dire « il est bon que tu existes », eh bien, on va aller au-delà même de la perte des qualités, de la perte de la belle apparence, de la perte. Et là, on va tenir jusqu'au bout dans l'amour, voyez, objectivement.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Joseph Pieper, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé, Clotilde Césari à la lecture et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.